إيكوماج.
مازلنا مواصلين معاكم تسمعوا في ايكوماج على اكسبريس اف ام حتى الماضي 3. نفكركم للي مازالوا كيخلطوا علينا اللي نحن موجودين في مدينه الثقافه في اطار الاحتفال باسبوع اوروبا لا سمان دو لوروب من نهار 9 الى نهار 15 مايو. الانطلاقه باش تكون جوستمو مع احد اهم البرامج اللي يطرحها الاتحاد الاوروبي فيما يخص الشباب وبالتحديد فيما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذاك علاش انطلاقتنا باش تكون مع ضيفنا اوليفيي اك شارجي دو بروغرام للديليغاسيون de l'Union européenne en Tunisie, responsable du programme d'appui à la jeunesse EU for Youth. Bonjour et bienvenue parmi nous, Monsieur Hack.
Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Merci. Alors commençons par le commencement. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée sur le programme EU for Youth?
Alors le programme EU for Youth est un programme qui est entièrement dédié à la jeunesse tunisienne, plus particulièrement à la jeunesse défavorisée. Dans le but de créer un maximum d'opportunités d'emploi, notamment en faveur des jeunes. Et donc ce programme se décline en plusieurs axes d'intervention que je pourrais développer par la suite si vous voulez.
Exactement. Donc alors, on va se concentrer beaucoup plus sur l'un des axes qui font partie du programme EU for Youth, qui est jeunesse et qui est dédié à l'économie sociale et solidaire. Ça consiste en quoi ?
Alors l'économie sociale et solidaire est une préoccupation aujourd'hui en Tunisie comme ailleurs. La Tunisie déjà, il faut le dire, a innové en adoptant une loi spécifique sur l'économie sociale et solidaire en 2020. Donc par rapport à ça, je pense que l'ensemble des acteurs de l'écosystème sont aujourd'hui encore en attente de l'adoption des décrets qui permettraient justement à cette loi de donner par la suite le plein essor au secteur. L'économie sociale et solidaire, c'est remettre au fait la personne au cœur de l'action économique. Et à travers le projet jeunesse, notamment, qui s'inscrit dans le cadre de E4Youth, on tend à cette approche-là, c'est-à-dire de créer des opportunités spécifiques dans les territoires plus particulièrement défavorisés, des opportunités d'insertion économique, de création d'emplois en visant spécifiquement des associations de jeunes, mais aussi des groupements, par exemple. Et à travers cette approche-là, on crée un lien avec les territoires.
Le lancement du programme jeunesse, c'était en 2019, donc ça fait 2 ans pratiquement que ça existe. Vous savez, parler un petit peu, vous avez évoqué le contexte général de la création, du lancement de ce programme. Le programme a été lancé juste avant la loi en question qui a été votée par le Parlement tunisien. C'était dans quel cadre exactement? Comment vous avez, ou pourquoi vous êtes intéressé essentiellement à l'économie sociale et solidaire pendant cette période-là?
Alors c'est quelque chose qui découle naturellement, j'allais dire, du partenariat de la jeunesse qui a été fixé entre la Tunisie et l'Union européenne en 2016. Donc EU for Youth est un programme qui découle de ce partenariat, plus précisément, et l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui un axe d'intervention qui est jugé comme étant très pertinent compte tenu de son potentiel. Alors c'est sûr que l'économie sociale et solidaire aujourd'hui représente 15% du PIB en Tunisie. Exactement. Mais serait amenée à avoir, je ne sais pas, 7 à 10% environ du PIB si justement ce secteur était pleinement développé. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé particulièrement à ce secteur, parce qu'il existe bon nombre de potentiels, notamment dans les régions, j'allais dire, défavorisées, pour créer de l'emploi, là où c'est particulièrement difficile de créer de l'emploi, en remettant justement les jeunes, les personnes au sein de cette activité économique, à travers la solidarité entre eux et à travers les principes qui régissent l'ESS.
Votre objectif ne devient-il pas un peu plus compliqué à réaliser ou à concrétiser, puisqu'on n'a toujours pas les textes d'application de l'économie sociale, enfin la loi relative à la loi de l'économie sociale et solidaire?
Bien sûr, comme je l'ai dit d'entrée, c'est vrai que les décrets d'application manquent aujourd'hui, et c'est ce qui fait que la loi ne peut pas être pleinement appliquée comme elle devrait l'être, et ça pose effectivement un problème. Mais néanmoins, on a des actions aujourd'hui qui s'inscrivent à travers le projet jeunesse. On a déjà soutenu 43 porteurs de projets à travers un mécanisme qui est réplicable, qui commence à faire ses preuves, c'est-à-dire c'est un appui technique et financier à ces jeunes qui sont désireux d'entreprendre dans leur territoire, dans leur lieu d'origine. Et ça commence à porter ses fruits. C'est un processus, j'allais dire, un peu de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en l'espace de 2 mois, mais c'est quelque chose qui petit à petit va porter ses fruits. Et je pense qu'avec les décrets d'application, évidemment, ça faciliterait la tâche. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des projets qui fonctionnent et qui commencent à donner des résultats concrets.
Le programme, il a commencé en 2019, il va durer jusqu'à 2024, août 2024.
Il a été prolongé en raison des difficultés, j'allais dire, la crise sanitaire qui n'a échappé à personne. Et puis aussi, le contexte actuel a fait que le programme a été dans sa durée prolongée jusqu'en 2027.
D'accord. Donc comment vous évaluez l'avancement ou l'état d'avancement du programme et surtout que ça fait 2 ans que ça a été lancé, mais avec tout ce qui s'est passé, la crise, le contexte actuel?
Alors, je ne vais pas vous cacher qu'évidemment, on a eu des retards, comme d'autres programmes de coopération, comme, j'allais dire, toute l'économie, on a été retardé, mais on a réussi quand même à lancer des projets, dont le projet jeunesse. Et comme je l'ai dit déjà, c'est des actions qui prennent du temps et qui ne se matérialisent pas en l'espace de quelques mois. Donc, on est sur un travail de longue haleine, un travail dans les territoires, avec des concrètement avec ces personnes, avec un accompagnement technique. Ça aussi, c'est indispensable pour faire fonctionner ces projets, pour la durabilité. Donc, je dirais qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, la crise sanitaire n'a échappé à personne et les difficultés de l'environnement, j'allais dire, actuels, effectivement, font que on a des obstacles aussi, on a des défis à surmonter.
Alors, depuis le début, on parle de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS, du programme jeunesse, mais il y a des auditeurs qui n'ont absolument aucune idée sur l'économie sociale et solidaire. Donc, de quel type de projet on parle exactement aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on parle de projets qui sont concrètement des projets portés par des associations, ça peut être aussi des groupements dans le domaine agricole. Ce sont des jeunes désireux d'entreprendre qui ont répondu à des appels à projets à travers ce projet, donc qui se sont manifestés avec leur idée de projet. Ça peut être des jeunes, c'est très souvent dans la transformation agricole, mais aussi dans l'artisanat. On soutient aussi des projets à travers le programme Innovi qui est présenté ici aujourd'hui. Donc ce sont vraiment des jeunes qui ont une idée de projet, qui ont besoin d'avoir accès à un conseil technique, à un accompagnement, mais aussi à un accès financier. Et comme ces appels à projets sont ouverts à tous, on n'a pas fait de ségrégation, j'allais dire, et de ce fait, on a vraiment des jeunes qui répondent à ces projets concrètement. On est aujourd'hui dans 7 régions avec le projet jeunesse, dans 7 gouvernorats, et on a 43 projets qui sont concrètement soutenus, que ce soit à travers du conseil, de l'équipement, des formations, pour justement créer des emplois ou maintenir des emplois qui ont été mis à risque à travers la crise sanitaire.
Alors, l'enveloppe totale qui a été décaissée jusqu'à présent, c'est autour de combien à peu près ?
Alors aujourd'hui, on a lancé un premier fonds d'une enveloppe globale de 490 000 euros, et on a 2 autres fonds qui vont venir, qui sont plus conséquent. On a un grand fonds qui s'appelle le Social Innovation Fund, qui est doté de 4,4 millions d'euros qui sont dédiés entièrement à ces porteurs de projets. Et c'est ça le côté, j'allais dire, novateur et le côté le bon côté de ces interventions, c'est que cet appui bénéficie directement à ces jeunes porteurs de projets.
Alors aujourd'hui, je suis jeune, je suis auditeur ou auditrice, jeune auditeur ou auditrice. Je suis intéressée par l'économie sociale et solidaire. J'ai probablement des idées, mais pas encore de projets en main. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse bénéficier de ce programme ?
Alors effectivement, il faut avoir une idée ou du moins se regrouper pour avec d'autres personnes qui ont une idée, un projet à porter. Et à partir de là, je me porte candidat. Comme je vous l'ai dit d'entrée, il n'y a pas
de barrière
à l'entrée, exactement. Ouais. Donc vous pouvez vous porter candidat à travers les réseaux sociaux. Il y a la page Facebook du projet jeunesse, par exemple.
Une simple idée, ça peut suffire pour se lancer.
Une simple idée, elle sera par la suite évaluée. C'est-à-dire que nous n'excluons personne d'entrée, mais par la suite, c'est tout un processus très rigoureux, très transparent, d'évaluation, multi-étape, qui permet justement d'arriver à choisir des projets qui ont une certaine, une certaine maturité. Mm-hmm. Mais d'entrée, nous n'excluons personne. C'est-à-dire vous avez une idée, vous voulez entreprendre et portez vos candidats, et c'est à travers le processus de sélection que vous verrez si oui ou non ce projet sera retenu. Mais le processus de sélection est très clair et très transparent, et c'est ça qui fait aussi la qualité de cette intervention. C'est que nous n'avons pas de biais d'entrée.
Est-il un processus plutôt lent, rapide, accéléré, compliqué
Vous parlez de la sélection?
Oui.
La sélection, elle a duré quand même pour ce premier fonds quelques semaines, enfin on va dire au total 3 mois, parce que nous passons par des phases. Alors vous avez l'acte de candidature, ensuite cet acte de candidature, il y a la phase de sélection administrative sur dossier, puis ensuite nous avons procédé à des visites terrain de des porteurs de projets, avec ensuite une phase d'incubation, c'est-à-dire que nous avons passé en revue l'ensemble de ces projets avec des experts qui ont évalué ces projets, qui ont donné des conseils. Donc ça a duré également plusieurs jours. Après, les porteurs de projets se sont présentés devant un jury, un jury composé d'experts de différents horizons. Et c'est à l'issue de ce processus de présentation de leur projet que le choix final a été effectué.
Ça dure à peu près combien
de
temps ?
Donc globalement, là, on parle d'un processus qui a duré 3 mois environ.
D'accord.
Pour ce premier fonds.
Pour décaisser le montant en question pour...
Alors le décaissement, c'est quelque chose qui ne se fait pas en une seule tranche, en une seule fois. C'est quelque chose qui se fait successivement, c'est-à-dire c'est individualisé en fonction des projets. Chaque projet est différent. Vous avez des projets qui ont besoin d'achat d'équipement, vous avez des projets qui ont besoin d'un accompagnement en termes de formation, en termes de conseils. Et en fonction de la nature des projets, nous allons décaisser une première tranche, une deuxième tranche, si c'est l'achat d'équipement, ça sera plus conséquent au début. Tout cela a été individualisé, donc je n'ai pas la réponse, je ne peux pas vous donner une seule réponse à cette question.
Mais il n'y a pas de plafond par rapport au financement
Non, alors également, il n'y a pas eu de plafond d'annoncé lors de ce premier fonds, parce que tout simplement, nous avons voulu retenir des projets, j'allais dire, tous horizons, sans mettre de barrière au début, et on a évalué les projets sur base de leur business plan, et c'est en fonction de l'évaluation de ces business plans, de ces plans de continuité, on les appelle, qu'on a jugé, on a évalué les besoins financiers. Il n'y a pas de plafond dans un premier temps, en tout cas.
Parfait. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous avez créé une sorte d'écosystème pour l'économie sociale et solidaire, plus particulièrement pour l'innovation sociale, telle que ce qui a été créé depuis quelque temps pour les startups, par exemple, pour l'innovation technologique?
Alors je dirais qu'on s'inscrit plutôt dans un écosystème qui est créé par tous les acteurs de cet écosystème, et clairement dans cet écosystème on a développé, j'allais dire, un mécanisme que j'appellerais réplicable, parce que ce mécanisme de sélection, comme je l'ai un peu décrit tout à l'heure, est un mécanisme qui permet d'être répliqué à tout moment, qui pourrait couvrir d'autres gouvernorats. Donc on a aujourd'hui un outil en main avec lequel on peut aller au-devant de ces jeunes porteurs de projets, pour leur permettre justement de répondre à ces appels en vue d'un appui technique et financier.
Vous considérez au final, vous considérez que le projet aujourd'hui il a pu réussir? Vous pouvez le dire comme ça?
Je pense que le projet est en très bonne voie de succès. Nous avons des premiers succès qui se matérialisent aujourd'hui, et nous avons la grosse part du gâteau à venir. Qui nous permettra aussi d'évaluer à la fin du projet son succès dans sa globalité. Mais clairement, aujourd'hui, le projet est sur une très bonne voie.
La jeunesse tunisienne s'intéresse à l'ESS?
Oui, je pense que la jeunesse tunisienne s'intéresse à l'ESS et plus particulièrement dans des régions où les opportunités d'emploi et d'activité économique sont largement plus limitées qu'elles ne seraient, par exemple, dans certaines municipalités à Tunis.
L'appartenance régionale, elle compte pour vous, une sorte de discrimination positive pour...
Alors oui, on intervient à travers le projet jeunesse dans cette gouvernorat actuellement. C'est un choix qui a été fait en fonction de certains critères. Maintenant, nous n'excluons pas d'aller vers d'autres gouvernorats avec d'autres projets. Mais clairement, il faut limiter ces interventions en fonction des moyens mis à disposition. Et là, on est actuellement aujourd'hui sur cette gouvernorat, et plutôt des gouvernorats qui sont défavorisés sur le plan économique.
Olivier Hack, chargé de programme de la délégation de l'Union européenne en Tunisie et responsable du programme d'appui à la jeunesse EU for Youth. Merci pour votre présence.
Merci à vous, très bonne journée.
Merci.